Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel : Ne son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé : N'as-tu pas d'autres garçons ? Jessé répondit : Il reste encore le plus jeune, il est en train de regarder le troupeau. Samuel dit à Jessé : Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il était beau. Le Seigneur dit alors : Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole.
Traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur. Prépare une table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ viendra. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents nés aveugles ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre. À salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, « va ». Quand il revint, il voyait. Ces aveugles et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns, c'est lui. Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Dire, et lui, où est-il ? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient « C'est de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'est dit à l'aveugle : Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il dit : C'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. Pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi par peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus était le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est à interroger le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Saint pécheur, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que disciple. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'est pas, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. » Que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. »
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Les enfants du primaire sont attendus par le père Vincent de Paul pour une homélie plus adaptée à leur âge. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. Ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelle parole étrange de Jésus! Cherchons donc à comprendre, cherchons à voir que nous avons bien du mal à voir ce que Jésus veut dire. Et cherchons à comprendre à travers eh bien, l'épisode de la guérison de cet aveugle-né et puis aussi l'épisode de Samuel qui va oindre le roi David. Nous pourrons peut-être en tirer quelques leçons hein, pour notre vie d'aujourd'hui. La guérison que Jésus opère est étonnante. Elle produit la division. La division chez les témoins. Est-ce bien lui qui était mendiant ? Non, non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et puis après, les pharisiens, puisque cet homme a fait quelque chose le jour du sabbat, il ne peut pas venir de Dieu. Ben oui, mais d'autres disent, ah ben oui, mais pour faire une guérison pareille, il faut bien venir de Dieu. Et ils étaient divisés. Et puis l'aveugle les retranchements, voilà qu'il l'injurie et qu'il finit par l'exclure. Nous connaissons bien ce mécanisme, hein, nous l'avons connu à propos de la crise du Covid. Les gens se divisent, s'injurient, s'excluent. Un petit peu aussi sûrement avec la crise des retraites. Hein. Les uns pensent ainsi, les autres pensent le contraire. Et pour bien des choses de ce monde, beaucoup ont un avis très arrêté sur tout. Nous sommes sûrs que c'est ce que disaient les pharisiens. Et Jésus les traite d'aveugles. Il leur manque l'humilité. Il leur manque cette, et il nous manque bien souvent cette capacité d'aimer. Sommes-nous capables d'accueillir la vérité ? Sommes-nous capables d'accueillir la lumière du monde qui est Jésus et qui a un jugement différent de ce. Demain, nous allons fêter Saint-Joseph. Hein ? Eh bien, si Saint-Joseph avait été comme ces gens-là, nous savons, je suis sûr que il aurait fait lapider la Sainte Vierge et puis tout serait arrêté. Alors, pour essayer de mieux voir ce que Jésus veut nous dire, je vous propose deux pistes parmi bien d'autres qu'on pourrait trouver sur ces lectures de la parole de Dieu. D'abord, Jésus est interrogé sur le sens de la maladie, sur le sens plus largement de toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Et nous nous demandons à ce moment-là, mais pourquoi moi ? Suis-je coupable de quelque chose ? C'est la question qui est posée à Jésus. Hein, Rabbi, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Remarquez bien que sous la question, guise un nous savons. Nous savons que tous les gens à qui il arrive quelque chose de mal, c'est des coupables. Jésus répond bien sûr le contraire. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais il nous dit quelque chose d'étonnant. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Voilà, alors bien sûr, à la lumière de ce qui va se passer ensuite, nous voyons bien que, oui, si cet aveugle est né aveugle, hein, c'est pour que, voilà, j'ai accompli une œuvre merveilleuse en lui ce jour-là. Il en est sans doute de même aussi pour chacun et chacune d'entre nous au milieu de nos épreuves, si nous savons les regarder avec foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne disait-elle pas, passe, même le péché, hein, qui peut nous servir à nous rapprocher de Dieu. Même le diable fait partie du plan de Dieu, il est là pour qu'éclate encore la puissance et l'amour de Dieu. Voyez, Jésus ne voit pas les choses de la même façon que nous. Hein? On le voit dans l'épisode de Samuel. Dieu l'envoie chez Jessé pour choisir, pour oindre le roi que Dieu a vu. Bon, et quand Samuel arrive, il dit, ah voilà, ah purée, l'aîné là, Eliab, c'est un grand gars, il est beau, il est fort, il a l'air intelligent, c'est lui que le Seigneur a choisi. Eh ben non, pas. Et Dieu explique, voilà, hein, les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. C'est ça qu'il nous faut appris. On a un épisode dans l'Évangile qui nous dit la même chose. Quand Jésus, avec ses disciples, regarde les gens qui apportent de l'argent dans le trésor du temple. Puis il y a des gens qui apportent des grosses sommes d'argent. D'un coup, il y a une petite veuve qui arrive, qui met 2 piécettes. Et Jésus appelle ses disciples. Il leur dit, vous avez vu cette petite veuve-là? Eh bien, c'est elle qui a donné le plus. Ah, drôle de comptable. Et il explique, voilà, c'est elle qui a donné le plus parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Dieu regarde le cœur. Alors nous aussi, ne nous fions pas aux apparences, mais si nous voulons être des fils de lumière, apprenons le cœur de ceux qui sont autour de nous. Et puis, deuxième piste que nous donne cette guérison, c'est la façon dont Jésus opère la guérison. De façon étrange, la terre qui est par terre, voilà, il crache dessus, la salive de Jésus plus la terre, ça fait une boue qui dépose sur les yeux de l'aveugle. Et il lui donne un ordre, va te laver à la piscine de Siloé. Eh bien, c'est le modèle dont agissent les sacrements encore aujourd'hui dans nos vies. Il y a toujours un élément matériel, visible, terrestre. Il y a une action divine. Et puis, il y a la nécessité de notre foi, de notre liberté qui obéit à Jésus. Dans le sacrement du baptême, en matériel, bien sûr, c'est l'eau. Et puis quand le prêtre baptise, eh bien, et verse l'eau sur le front, pendant ce temps-là, Dieu, lui, lave l'âme et la purifie de tous ses péchés. Et le baptême ne peut avoir lieu si quelqu'un a demandé le baptême et a proclamé sa foi. On verra ça avant le jour de Pâques et puis le dimanche suivant avec nos jeunes catéchumènes. Voilà, avant d'être baptisé, il faut dire « je crois ». Au Père, je crois au Saint-Esprit. Ah, alors je peux te baptiser. Dans le sacrement de l'Eucharistie que nous vivons, là, il y a le pain et le vin qui vont être apportés par les servants et peut-être par aussi quelques autres personnes de l'Assemblée. Voilà. Il y a la parole de Jésus, « Ceci est mon corps livré pour vous, pour le pardon des péchés. Prenez, mangez-en tous. » Et puis, il y a nous. Le premier geste de foi que nous avons fait, c'est déjà de venir à la messe. Nous avons fait l'effort de venir. Voilà. Et puis, quand nous communions, le Père nous dit le corps du Christ. Et nous répondons Amen. Ce qui veut dire je crois que c'est le corps du Christ que je reçois. Dans le sacrement de pénitence, l'élément humain est peut-être plus dur à trouver, mais il est fort aussi. C'est d'aller rencontrer quelqu'un, un homme, à qui Jésus a dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront remis. » Et bien sûr, le geste de foi, c'est d'aller se confesser. Et nous savons combien ça réclame vraiment de la foi. Alors nous qui sommes aussi des aveugles de naissance, par le péché originel et tout ce qui est notre connaissance, soyons nous aussi les témoins de cette action de Dieu dans chacune de nos vies, et particulièrement dans les sacrements. À titre personnel, je peux vous dire que, voilà, sacrement de pénitence, je pense vraiment que je ne serai pas là au milieu de vous à vous parler, et je n'ose pas penser à ce que je serais devenu. Je peux dire aussi que pendant toute une partie de ma vie, s'il n'y avait pas eu l'Eucharistie pour me redonner des forces et du courage, j'aurais craqué. Et puis, aujourd'hui, où je vis plus paisiblement, je dirais, je suis témoin des merveilles que Dieu fait à travers moi. Petit serviteur de cadre qui verse de l'eau dans les jarres. C'est-à-dire, je fais ce que le rituel de l'Église demande. J'obéis à l'Église. Et puis, tous les 2-3 mois, Hein, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ah, mon père, si vous saviez, quand vous m'avez donné le sacrement des malades, ou quand vous m'avez béni, ah, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Hein ?» Et je leur dis toujours « Je suis un petit serviteur de Cana. Moi, je vous ai donné de l'eau, et vous, vous avez reçu du vin. » Ah, ben, c'est par là. Voilà, chers frères. Donc, au-delà des divisions qui traversent notre monde, et dans bien des cas, nous ne savons pas. Alors, soyons comme l'aveugle, disons « je ne sais pas ». Mais au milieu de tout ça, c'est peut-être plus important d'être témoin de l'action de Dieu dans nos vies. Ce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas le dire. Mais ce que nous savons, n'ayons pas clamé comme cet aveugle. Car je ne sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure que l'aveugle témoigne, sa foi grandit. Au début, il nous dit « l'homme Jésus ». Puis quand on lui demande qui c'est, il dit « c'est un prophète ». Et puis ensuite, il y a encore une autre étape que je pense. Puis à la fin, voilà, il s'incline devant Jésus et il l'adore. Eh bien, nous aussi, en étant témoins de ce que nous vivons, notre foi grandira, ainsi soit-il.